Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 14. Les charrettes s'étaient remises à rouler. Les chevaux, qui avaient eu le temps de souffler, avançaient entre-temps. Entassées pêle-mêle, les captives, mises en gaieté par le cidre mousseux de l'auberge du père François, avaient commencé par chanter. Puis, la nuit étant venue, les rires se firent plus rares lorsque le sergent eut crié à toute la bande qui se livrait à cette gaieté par trop exubérante. « À ça, vous autres! Faudrait voir à dormir un peu !» Marianne, depuis qu'elle était remontée en voiture, avait repris silencieusement sa place à côté de sa compagne de chaîne. Indifférente aux chants, aux cris des exilés, la pauvre créature était en proie au plus sombre chagrin. Elle venait de se tirer d'une bien pénible situation, en commandant à son cœur, en s'obligeant à mentir à cette brave vieille femme qui avait pris soin de son enfance. Mais à présent, elle pouvait s'abandonner tout entière à sa douleur. En vain, ses compagnes d'exil essayèrent-elles de l'interpeller au sujet de sa tristesse, en lui adressant toutes sortes de plaisanteries cyniques, elle s'abstint de répondre ou de protester. Et lorsqu'on ne fut plus qu'à peu de distance du Havre, alors que toutes redoutait le moment où il faudrait s'embarquer pour la terre d'exil, seule, elle ne manifesta aucun sentiment de regret. Enfin, les charrettes s'arrêtent devant l'auberge où Picard avait élu momentanément domicile. Les claquements de fouets et les cris des femmes réveillèrent en sursaut le domestique du chevalier de Vaudrey. Picard, les yeux écarquillés, plongea ses regards sur la route. Puis il s'élança dans l'escalier pour courir aux voitures. En moins d'une minute, il eut rejoint l'aubergiste qui causait avec le sergent et les soldats. Et sans attendre plus longtemps, il se mit à regarder sous le nez toutes les captives, cherchant dans ce lot de filles celles qui l'intéressaient. Déjà, il avait passé sans succès l'inspection du chariot qui tenait la tête. Il courut au second, persuadé qu'il allait y trouver la malheureuse Henriette. Il la chercha vainement. Alors, il finit par où il aurait dû, pensait-il, commencer, et s'adressa au sergent pour avoir le renseignement désiré. Le chef du convoi venait d'entrer dans l'auberge pour se faire servir à boire. Picard alla se placer à la même table que lui et entama la conversation. « C'est bien vous, demanda-t-il, qui avez le commandement du convoi ?»« Oui, mon gentilhomme, ricana le sergent en voyant le visage ahuri de son interlocuteur. « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» Et il ajouta avec une intention de malice. « Vous connaissez peut-être quelqu'une de ces honnêtes demoiselles ?»« C'est-à-dire que je désirerais causer avec l'une d'elles ?»« Ah ah, une ancienne amie sans doute !»« Et vous êtes venu attendre au passage, histoire de lui souhaiter un bon voyage ?»« Voyons, laquelle ? Comment appelez-vous cette vertueuse jeune fille ?» Picard avait rougi en songeant que c'était d'Henriette que l'on parlait en ces termes. Et il se disait que si par malheur son maître l'avait accompagnée, il n'aurait pas manqué de casser les reins à l'insolent soldat. Cependant, il ne laissa rien paraître de sa mauvaise humeur, et elle répondit. « Avez-vous, mademoiselle Henriette Gérard ?»«
Oui, nous avons ça. »
Et consultant sa liste. « C'est le numéro 12. »«
Décidément, » ajouta-t-il, « voilà une demoiselle dont on s'occupe beaucoup. »
Mais Picard en savait assez. « Vous êtes bien sûr que mademoiselle Henriette Gérard est dans l'une des deux voitures. »«
Parbleu ! À moins qu'elle ne se soit évadée en route.
« C'est que, insinua le valet, je ne l'ai pas aperçue dans les charrettes.
« Vous n'y voyez peut-être pas très clair, l'ami.
« Alors conduisez-moi vous-même auprès d'elle.
« Oh oh, lorsque le pot de cidre est encore à moitié plein.
« En ce cas, je vais vous aider à le vider.
« Pas de refus, l'ami, à condition que vous en offrirez un second.
« Entendu, dit Picard en s'efforçant de dissimuler son impatience. Et frappant du poing sur la table, il demanda un deuxième pot de cidre.
« Attendez !» fit tout à coup le sergent. « Vous n'aurez pas besoin de vous déranger. »
Et allant à la porte.
« Hé, la ramée »
cria-t-il à un des soldats de garde auprès des charrettes. Celui qu'on avait appelé se présenta.
« Amène-moi le numéro 12 !» lui dit le sergent.
Et se tournant vers Picard.
« Par exemple, ami » fit-il en riant. « Il faudra accepter la paire !»«
Quel paire ?»
La paire de demoiselles, parbleu, car elles sont enchaînées deux à deux.
Enchaînées ?
Mais oui, c'est l'habitude. À l'idée qu'il allait revoir, enchaîné avec une voleuse ou une prostituée, celle que son maître adorait et que lui-même respectait comme la plus vertueuse des jeunes filles, Picard était devenu tout pâle de colère. « Comment ? » dit-il. « Vous avez accouplé cette jeune personne ?»«
Avec la plus jolie voleuse du lot, et gaie comme un pinson. Ce n'est pas sa faute si sa compagne engendre la mélancolie. »«
Ah oui, elle doit être bien triste, » s'exclama le valet.
« On dirait qu'elle a perdu père et mère. »
La conversation fut interrompue par l'arrivée du soldat accompagnant les deux prisonnières. Mais tout aussitôt, Picard se leva d'un bond en s'écriant
« Vous vous êtes trompé. Aucune des deux n'est Henriette Gérard. »«
Vous croyez ? » fit le sergent.
« Eh bien, vous allez voir. »
Il s'était tourné vers les deux femmes. Il appela
« Henriette Gérard, avancez !»
Marianne s'approcha aussitôt, entraînant avec elle sa compagne de chaîne, puis s'arrêta devant le sergent. « Me voici, » dit-elle. « Que me voulez-vous ? »
« Eh bien, l'ami, » ricana le militaire en s'adressant à Picard, « vous voyez que je connais parfaitement tout mon monde. Voilà bien la demoiselle que vous cherchez. Si vous avez quelque chose à lui dire, ne vous gênez pas. »
Mais le vieux domestique n'écoutait plus. Sur son visage se lisait la stupéfaction qu'il éprouvait. Le pauvre diable regardait Marianne, dont les traits ne lui étaient pas inconnus. Il fut quelques instants avant de pouvoir interroger. Puis s'approchant de la jeune femme, « Que signifie cela ? » demanda-t-il. Et comme la prisonnière s'obstinait à déclarer qu'elle était bien Henriette Gérard,
« Ah ça ! » lui dit Picard, « vous voulez donc me faire croire que j'ai complètement perdu l'esprit ?»
Puis saisissant la main de son interlocutrice, il ajouta,
« Mais je connais Henriette ! Je l'ai vue de mes yeux, je lui ai parlé, et je vous dis que ce n'est pas vous. Et je vous dis, moi, que je me nomme bien réellement Henriette Gérard, » répondit avec fermeté Marianne.
Picard demeura stupéfait. Marianne se souvenait d'avoir vu Picard à la salpêtrière. Elle l'avait entendu se donnant auprès de sœur Geneviève comme valet de confiance du lieutenant de police. Or, il fallait, jusqu'à l'instant de l'embarquement, que son identité ne fût pas reconnue. Il le fallait dans l'intérêt d'Henriette, qui serait certainement recherchée, découverte et finalement déportée si la substitution était prouvée. C'est donc avec la plus grande énergie qu'elle continua de jouer son personnage. Picard était abasourdi. Il se demandait s'il était le jouet d'une illusion, d'un rêve, ou si sa raison l'abandonnait. Le sergent vint heureusement au secours de Marianne pour mettre un terme à cette situation.
« Eh bien, s'écria-t-il, vous avez dit à votre ami ce que vous aviez à lui dire ? Laissez-nous maintenant continuer notre besogne. »
Et s'adressant aux deux prisonnières,
« En route, vous autres !»
Marianne n'hésita pas à obéir. Elle avait hâte de ne plus se trouver en présence de Picard. Au moment où les deux charrettes se remirent en marche, elle aperçut le brave homme à la porte de l'auberge, gesticulant comme un possédé. Il s'accusait de n'avoir pas mieux interrogé cette fille qui avait pris le nom d'Henriette Gérard, de ne pas l'avoir forcée d'avouer qu'elle en imposait. Puis, la tête perdue, il se hâta de payer ce qu'il devait à l'aubergiste et voulut se mettre sur le champ, en route, pour retourner à la ville. Et sans écouter les conseils de l'aubergiste, qui lui affirmait que la route n'était pas sûre à cette heure avancée, il partit à grands pas dans la direction de la porte du Havre. Nous renonçons à décrire l'état d'esprit du pauvre homme pendant ce long trajet. « Cette fille, se disait-il, est-elle comme elle l'affirme Henriette Gérard ? Ai-je perdu l'esprit ?» Lorsqu'il arriva devant la porte de l'hôtellerie, où était descendu le chevalier de Vaudrey, sa résolution était prise. Quelle que dût être la colère de son maître, il ne pouvait lui laisser plus longtemps l'espoir de retrouver Henriette. Il frappa donc à sa porte et demanda à parler au chevalier. Roger n'avait voulu prendre aucun repos. Il s'était tantôt promené dans la chambre, tantôt assis à la fenêtre, attendant avec une impatience fiévreuse que le jour parût. En entendant monter l'escalier, il courut à la porte et se trouva en face de Picard. Sans s'arrêter à la mine piteuse que faisait le valet, il s'écria « Si tu reviens par ailleurs, c'est que tu as quelque chose d'important à m'apprendre. »
« Oui, mon maître, oui. »
« La voiture des exilés est arrivée ?»«
Oui, mon maître. »«
Henriette, tu l'as vue ? Tu lui as parlé ? Tu lui as dit que je la délivrerais ? Que je suis décidée à tout risquer pour l'arracher à ses bourreaux ?»«
Non, mon maître, non. »
Cette réponse fit bondir Roger. Saisissant le domestique par le bras, il l'obligea à entrer dans la chambre en criant
« Tu es donc devenu fou, Picard ?»«
Je le crains, monsieur le chevalier, car je ne comprends rien absolument à ce qui se passe. »
« Que veux-tu dire ? Mais parle, parle donc !»
Et n'écoutant que l'agitation qui s'était emparée de lui, Roger secouait vigoureusement le malheureux valet, en dépit de son âge.
« Ah, vous avez bien raison de me traiter de la sorte !» murmurait Picard d'un air contrit.
« Vous pouvez, mon maître, faire éclater votre colère sur la tête de votre serviteur indigne. Vous avez le droit de mettre en contact votre noble pied avec mon échine de roturier. Et je n'aurai pas encore tout ce que je mérite. »
Le chevalier l'interrompit. « Henriette est-elle arrivée ?»«
Non, mon maître. Oui, non, je ne sais pas, monsieur le chevalier. »«
Voyons, ne tremble pas ainsi. Et dis-moi ce que tu venais m'annoncer. »«
Eh bien voilà, j'ai attendu l'arrivée des charrettes. »
Il y en avait deux remplies de femmes.
Achève, je boue d'impatience.
Comme moi, mon maître, je bouillais.
En attendant de voir votre bien-aimé, je voulais me précipiter à ses genoux et lui dire les bonnes paroles dont m'avait chargé mon maître pour elle. Mais je suis restée confondue en voyant.
Quoi ? Qu'as-tu vu ?
Que votre cher adoré ne se trouvait dans aucune des deux voitures.
Roger avait écouté jusque-là en faisant des efforts pour contenir son anxiété. Cette fois, il éclata avec fureur, et Picard répétait toujours.
« Vous avez raison de vous emporter contre moi, monsieur le chevalier. Frappez-moi, tuez-moi si cela peut vous soulager. »«
Ton calme m'exaspère, misérable. Je ne peux croire que tu aies ta raison en ce moment.
Ne savons-nous pas qu'Henriette a été condamnée par le comte de Lignières à être transportée à la Louisiane ?»«
Oui, mon maître. » »«
Ne devais-je pas la rencontrer ici ?»«
Oui, mon maître. »
Mais comment se fait-il alors que tu viennes m'annoncer qu'elle ne fait pas partie du convoi de déportés qui, dis-tu, est arrivé ce soir ?
C'est précisément ce que je n'ai pu m'expliquer. Elle ne s'y trouvait pas,
mais elle prétendait s'y trouver.
Elle affirmait, ou plutôt une femme affirmait être Mademoiselle Henriette.
Une femme ? Une autre, dis-tu ?
Oui, monsieur le chevalier.
Oh, j'approfondirai ce mystère. Et sans ajouter une parole, Roger avait pris son chapeau et se dirigeait vers la porte.
« Où mon maître veut-il aller à cette heure ?»
dit Picard.
« Chez le capitaine du port. »«
Il doit dormir, monsieur le chevalier. »«
Je ne peux cependant pas rester ici dans l'incertitude mortelle où tu me jettes. »
Et s'animant. « Si Henriette n'a pas quitté Paris, ainsi que tu me l'annonces, nous ne devons pas rester une heure de plus au Havre. Et dès que je me serai assuré du fait, nous nous remettrons en route. »
C'était aussi l'avis de Picard. Mais ainsi qu'il l'avait prévu, la ville était absolument endormie.
Force fut aux deux hommes de se résigner à attendre. Le lendemain matin, Roger se rendit chez le capitaine du port, qui lui confirma l'arrivée du convoi et lui apprit que le départ des exilés aurait lieu à l'heure de la marée. Roger demanda s'il lui serait permis de voir les condamnés au moment de leur embarquement. Le capitaine ayant accédé à ce désir, le chevalier de Vaudrey et Picard se rendirent sur le quai pour y attendre l'arrivée des filles qui composaient le convoi. Les prisonnières arrivèrent bientôt, escortées par la foule des curieux qui ne leur ménageaient pas les lacis. À la vue de ces malheureuses, Roger éprouva une violente émotion. Mais la pensée d'Henriette le retint en cet endroit où il allait voir défiler les captives. Celles-ci s'arrêtèrent devant le capitaine du port. L'appel nominal devait avoir lieu avant l'embarquement. D'un coup d'œil, Roger, qui avait aperçu le rang tout entier, avait pu se convaincre qu'Henriette ne s'y trouvait pas. Le sergent fit l'appel. Lorsqu'il arriva au nom d'Henriette, le chevalier tressaillit. Ses regards se portèrent sur la femme qui répondait « C'est moi !» et il se tourna vers Picard, qui, immobile, roulait des yeux effarés.
« Tu as entendu ? » demanda-t-il à voix basse.
« Hélas, oui, mon maître, oui. C'est là le mystère que j'étais venu vous annoncer cette nuit et que je vais pénétrer dans un instant. »
Rassuré par l'attitude relativement calme de son maître, Picard reprit courage à son tour.
« Oui, oui, nous le découvrirons, ce mystère, » dit-il. « Nous monterons à bord avec ces malheureuses. Et là,
je vais d'abord obtenir l'agrément du capitaine du port. » Comme il s'approchait de l'officier, celui-ci recevait des mains du sergent, qui avait exercé le commandement du convoi, une lettre adressée par le lieutenant de police au gouverneur de la Louisiane et un pli à l'adresse du capitaine qui commandait le navire en partance. Après avoir rempli les ordres qu'il avait reçus à Paris, le sergent, suivi de ses hommes, se retira, laissant les condamnés sous la garde des marins, qui étaient arrivés dans deux grandes chaloupes, afin de les conduire à bord. C'est le moment que choisit le chevalier pour demander à visiter le bâtiment. Le capitaine déféra au désir du gentilhomme, qui se présentait comme étant le neveu du lieutenant de police, et le chevalier, accompagné de Picard, put se rendre à bord du navire dans le canot de l'officier du port. Peu de temps après qu'il fut sur le pont du bâtiment, il vit venir, à force de rames, les deux embarcations où les déportés avaient pris place. L'arrivée des condamnés à bord fut le moment le plus douloureux pour ces malheureuses. Jusque-là, en effet, les prisonnières, à l'exception de Marianne, n'avaient témoigné aucune émotion. Mais en se sentant séparées à jamais de ceux qu'elles affectionnaient et qu'elles ne devaient plus revoir, la plupart d'entre elles se lamentèrent, poussant des cris et éclatant en sanglots. Au fur et à mesure qu'elles paraissaient au haut de l'escalier, fixé au flanc du navire, deux matelots s'emparaient d'elles, leur ôtaient les fers et les conduisaient à l'entrepont, dans la salle qui avait été pour la circonstance transformée en un grand dortoir. Lorsque ce fut le tour de Marianne de se présenter sur le pont, le chevalier de Vaudrey demanda au capitaine l'autorisation de causer pendant quelques instants avec cette prisonnière à laquelle, disait-il, il portait intérêt. « Vous n'êtes pas, dit le capitaine à Roger, la seule personne qui vous intéressiez à cette malheureuse fille. Voici en effet une lettre qui m'a été remise de la part de Monseigneur le lieutenant de police. Monsieur le comte de Lignières me recommande particulièrement la déportée qui se nomme Henriette Gérard. Je dois veiller à ce que cette prisonnière ne soit pas molestée par ses compagnes, et au besoin, je devais lui donner une cabine à part, s'il y avait inconvénient pour elle à se trouver en compagnie des filles de débauche et des voleuses qui composent le convoi. « Vous voyez, monsieur, ajouta le capitaine, que cette jeune fille est protégée de très haut. Au surplus, voici une lettre du lieutenant général de police pour le gouverneur de la Louisiane. Et je ne me trompe certainement pas en vous assurant que la nommée Henriette Gérard, à son arrivée à la Louisiane, y sera l'objet de certaines faveurs et obtiendra des adoucissements à sa situation de détenue dans le pénitencier. » Plus que jamais, le chevalier de Vaudrey avait hâte d'entrer en conversation avec la prisonnière. Il aborda Marianne en lui disant qu'il avait l'autorisation de demeurer avec elle sur la dunette jusqu'au moment où l'on s'apprêterait à lever l'ancre. La jeune femme s'inclina, marchant à côté de Roger. Picard les suivait. Marianne, à sa vue, avait éprouvé un saisissement. Elle se doutait que le gentilhomme qui l'accompagnait devait être celui qui avait été le protecteur d'Henriette, celui dont l'amour était aujourd'hui la cause de tous les malheurs qui s'appesantissaient sur la jeune fille. Elle devina quel genre de conversation allait s'échanger entre elle et lui. Elle s'y prépara, commandant à son émotion. Ce fut le chevalier de Vaudrey qui commença. « Mademoiselle, dit-il, si j'ai demandé à avoir un entretien avec vous, c'est que je vous ai entendu, pendant l'appel des prisonnières, répondre à un nom qui n'est pas le vôtre. Et si j'insiste pour que vous m'expliquiez le motif de cette substitution, c'est que la personne dont vous avez pris le nom m'est chère. Elle nous est très chère, ajouta Picard qui s'était rapproché. Monsieur, répondit Marianne, je vais vous dire la vérité, car je devine que vous ne me ferez pas, par une indiscrétion, perdre le fruit de l'action que j'accomplis en ce moment. Roger l'encouragea du regard. Vous pouvez parler en toute confiance, dit-il d'un ton qui ne pouvait laisser de doute sur sa sincérité. Loin de chercher à vous nuire, je serai au contraire tout disposé à vous être utile s'il est en mon pouvoir de le faire. » Marianne poussa un soupir. « Hélas, fit-elle, je ne puis que laisser s'accomplir ma destinée. Aujourd'hui va commencer pour moi une existence nouvelle, en même temps que je prends un nom nouveau. « Ah, je savais bien, s'écria Picard, et maintenant je vous reconnais. Je vous ai aperçu à la salpêtrière. Vous causiez avec cet ange que vous essayez de consoler. Oh, je m'en souviens, lorsque j'ai désiré m'entretenir en particulier avec mademoiselle Henriette. Oui, je vous vois encore, lui serrant les mains et cherchant à ranimer son courage. » Le chevalier l'interrompit pour presser Marianne de s'expliquer. « Monsieur a raison, déclara la jeune femme en relevant la tête. J'étais effectivement à la salpêtrière, avec cette jeune fille dont maintenant je porte le nom. Oui, vous m'avez vu lui serrer la main et l'exhorter à ne pas désespérer, parce que je savais combien avait été frappée cruellement celle qui, avant notre rencontre dans cette prison, m'avait elle-même encouragée et soutenue de ses bons conseils. « Comment ? » s'écria vivement le chevalier. « Vous connaissiez mademoiselle Gérard avant de l'avoir rencontrée à la salpêtrière ?»« Oui, monsieur, et c'est grâce à ses bons conseils, à ses exhortations, que je me suis décidée à préférer le châtiment à la liberté qui me laissait infâme. » C'est après l'avoir entendu me parler du pardon que je pouvais obtenir du ciel et de la réhabilitation que j'obtiendrais devant ma propre conscience
que j'ai rompu avec une existence honteuse et que j'ai couru me constituer prisonnière. » Marianne raconta alors avec une émotion croissante la scène qui s'était passée entre elle et les deux jeunes filles sur le pont Neuf, le soir au moment de l'arrivée du coche de Normandie. Elle fit le récit rapide de tout ce qu'elle avait été, avant la rencontre des deux orphelines qui l'avaient consolée et aidée de leurs faibles ressources. Puis elle parla de l'aveugle qu'elle avait aperçu de loin, emmenée par la Frochard. Elle dit les transes qu'elle avait éprouvées, sachant la vie qui attendait la malheureuse jeune fille dans la famille du supplicié. Et revenant à la scène de la salpêtrière, elle la raconta tout entière. Picard donnait des signes d'ahurissement, tandis que le chevalier, très ému, le regard rempli de larmes, ne perdait pas un mot de ce récit. Arrivé au passage qui avait trait au sacrifice qu'elle voulait s'imposer pour sauver Henriette, Marianne baissa la voix, comme s'il lui en eût coûté de parler de son dévouement. Mais Roger avait compris, dès les premiers mots, et il s'écria en saisissant les mains de la prisonnière. « Ce que vous avez fait là est généreux et grand. C'est sublime !» surenchérit Picard en s'essuyant les yeux. Le chevalier continua. « Vous n'avez pas voulu que l'ange d'innocence et de pureté fût la victime de la plus odieuse condamnation ?»« Non, je ne voulais pas qu'elle subît le sort de ces misérables créatures, destinées, ainsi que moi, à mourir au pénitencier de la Louisiane. » « Oh, merci, merci !» prononça Roger d'une voix rendue tremblante par l'émotion. « Le sacrifice que vous vous imposez suffirait à lui seul à vous mériter mon estime. Si la courageuse réhabilitation que vous avez tentée n'était avant tout digne d'intérêt et de respect. » Marianne l'interrompit. « J'ai fait, dit-elle en baissant les yeux, ce que me commandait de faire ma conscience, éclairée par Henriette Gérard. » L'heure était venue. Sur le pont, les matelots exécutaient les ordres donnés pour l'appareillage. En voyant le capitaine s'approcher, probablement pour le prévenir que l'entretien avec la prisonnière devait prendre fin, Roger dit vivement à Marianne « Comment avez-vous pu prendre la place de celle que vous sauvez aujourd'hui ?»« Grâce à la complicité de deux personnes qui n'ont pas voulu laisser s'accomplir une injustice criante, un crime odieux. »« Quelles sont ces personnes ?» demanda le chevalier. « D'abord, la supérieure, sœur Geneviève. Et l'autre ? Un bienfaiteur de l'humanité, le docteur qui soigne les malades à la salpêtrière. » « Mais c'est le docteur Hébert ? » fit Picard en s'approchant. « Le même qui donne ses soins à madame la comtesse de Lignières ?»« J'ignore son nom, » dit Marianne, « mais je sais qu'il a bien voulu, à la sollicitation de sœur Geneviève, s'occuper de moi. Je sais qu'il a dû intéresser à mon sort des personnages très haut placés et que c'est à force de démarche et de persévérance qu'il est parvenu à obtenir ma grâce. » Et elle ajouta en regardant Roger. « Vous voyez bien, monsieur, que c'est plus encore à lui qu'à moi-même que mademoiselle Gérard doit sa mise en liberté. C'est lui qui pourra vous aider à retrouver mademoiselle Henriette, qui doit, à l'heure présente, avoir quitté la salpêtrière. » « À merveille !» s'exclama Picard, enthousiasmé du récit qu'il venait d'entendre. « Nous irons chez le bon docteur. C'est là, en effet, mon cher maître, que nous aurons des nouvelles de mademoiselle Gérard. » Et le vieux serviteur faisait mine de vouloir partir. Le chevalier de Vaudreuil le retint d'un geste, et s'adressant à Marianne, « Je ne dois pas vous laisser partir. Je ne dois pas permettre que vous subissiez la peine qui vous a été remise, vous qui vous êtes si généreusement sacrifié. Vous ne pouvez rien pour moi, monsieur le chevalier, » dit Marianne. « Tout ce que je vous supplie de faire, c'est de dire à mademoiselle Gérard qu'au moment de quitter la France pour toujours, ma pensée est tout entière pour elle et pour cette autre jeune fille, pour cet aveugle infortuné dont la voix si douce m'a ramenée sur le chemin du repentir et du devoir. » La voix du capitaine se fit entendre. « Nous allons lever l'ancre, monsieur le chevalier, » dit-il, « et j'aurai l'honneur de vous accompagner jusqu'à terre, si vous le permettez. » « Ne vous dérangez pas, monsieur, » répondit Roger, troublé, et les regards fixés sur Marianne. Et montrant la prisonnière, il dit au capitaine, « Permettez-moi, monsieur le capitaine, de recommander cette jeune fille à votre bienveillance. » « Cette bienveillance lui est acquise, dès à présent, monsieur le chevalier, et j'accorde à votre protégé la faveur d'occuper seule l'une des cabines de mon bâtiment. » Marianne remercia du regard, et le chevalier s'éloigna après avoir énergiquement pressé la main de l'exilé. Picard, à son tour, s'approcha d'elle, la saisit dans ses bras, et l'étreignant avec force contre sa poitrine, il lui appliquait deux baisers sonores sur les joues. Puis à son tour, il se retira en murmurant « Ah, monseigneur le lieutenant de police, vous ne savez pas quel crime vous commettez aujourd'hui. Lorsque Roger fut sur le quai, il demeura silencieux et recueilli pendant tout le temps que durèrent les manœuvres de l'appareillage. Picard, de son côté, ne pouvait détacher ses yeux de ce navire qui allait emporter Marianne, et il songeait que sans le sacrifice et le dévouement de cette fille, lui et son maître seraient embarqués en ce moment pour suivre Henriette à la Louisiane. Enfin, l'ancre fut levée et le trois-mâts commença à glisser sur la mer, lentement d'abord pour prendre le vent. Roger et Picard purent le suivre pendant quelques instants en longeant la jetée. Puis tout d'un coup, le bâtiment se coucha légèrement sur le côté et accéléra sa marche. Longtemps, le chevalier et Picard le suivirent du regard. Debout, près du bastingage, Marianne, en signe d'adieu, agitait son mouchoir d'une main et de l'autre essuyait ses larmes. Et Picard, ce vieux laquais sceptique, se mit à pleurer aussi. « Adieu, brave et digne fille » s'écria-t-il d'une voix noyée dans les pleurs. Le navire fit les vents arrière et disparut enfin dans la brume. Alors, seulement, le chevalier dit à Picard en s'éloignant du quai, « Maintenant, il faut retrouver Henriette. »
L'entretien qu'elle venait d'avoir avec le chevalier de Vaudrey avait vivement impressionné Marianne. La certitude que son dévouement ne devait pas demeurer stérile fut pour elle un adoucissement à la peine qu'elle éprouvait depuis qu'elle avait revu la tante Vautier, la pauvre vieille femme qui l'avait élevée. Elle se représenta à Henriette la bénissant de lui avoir payé si largement la dette de reconnaissance contractée envers elle le jour où elle lui avait, par ses conseils, ouvert un horizon lumineux au milieu des ténèbres de son existence de débauche et de honte. Dans sa pensée, le chevalier réparerait par son amour, par l'union dont il poursuivait l'accomplissement, tous les malheurs qu'avait éprouvés l'orpheline. Par toute une existence de bonheur, il lui ferait oublier les quelques mois de souffrance qui l'avaient assaillie, les injustices qui l'avaient si cruellement frappée. Elle ne pouvait douter qu'Henriette n'eût déjà, grâce à l'intervention du bon docteur de la Salpêtrière, retrouvé sa sœur, et que l'aveugle, arraché des griffes de la Frochard, ne fût désormais à l'abri de nouvelles épreuves. Puis, au cours de ses pensées consolantes, pour sa conscience soulagée, elle songea à ce malheureux qui l'avait précipité dans la fange, et pour qui le châtiment était arrivé, terrible, le surprenant en pleine jeunesse. La Providence avait frappé Jacques Frochard. Marianne se représentait encore le convoi funèbre derrière lequel elle avait vu Pierre Frochard et sa mère. Elle entendait encore le rémouleur lui lancer à travers l'espace le nom de celui qu'on emportait à la fosse commune. N'était-ce pas Dieu qui avait voulu qu'il en fût ainsi? N'était-ce pas lui qui avait voulu qu'elle apprît, au moment où elle accomplissait un acte de dévouement, que l'homme qui l'avait entraîné dans sa vie de débauche et d'infamie n'était plus de ce monde? Alors, au calme de sa conscience, elle se sentit pardonnée. Désormais, elle allait vivre pour le bien, dans cet exil qui commençait pour elle. Le bâtiment sur lequel on avait embarqué le convoi des femmes dirigé sur les établissements français de l'Amérique était commandé par un lieutenant de corvette. Un enseigne et deux aspirants en composaient l'état-major. L'équipage comprenait seulement une vingtaine d'hommes. 30 femmes ou filles, dont Marianne était l'une des plus jeunes, se trouvaient passagères forcées dans ce navire mal emménagé, disons-le, pour un lointain voyage. C'était un brick assez mauvais voilier, tenant mal la mer par les gros temps, et qui allait, pendant 2 ans, servir de stationnaire dans les eaux de la Louisiane. Pour ce service de garde-côte, c'était tout ce qu'il fallait. Aussi n'avait-on pas jugé utile de faire commander ce bâtiment par un officier de haut grade. Le commandement du brick Le Glorieux avait été donné au lieutenant Charles Douvel, simple cadet de famille. C'était un officier suffisamment instruit, courageux, déterminé, mais d'un caractère quelque peu taciturne. On ignorait, en le voyant rechercher la solitude sur le pont, le motif de sa tristesse. Aussi, de tous ceux qui se trouvaient à bord du Glorieux, officiers ou hommes d'équipage, il était le seul qui ne s'occupa point des femmes qui composaient le convoi destiné à la Nouvelle-Orléans. Il avait laissé à l'enseigne le soin de loger aussi bien que possible tout ce monde dans l'entrepont dont la batterie avait été disposée pour recevoir la cargaison humaine. On ne se gênait guère avec les captives que le lieutenant de police envoyait à la Louisiane. On les parquait tant bien que mal
et c'est grâce à ce que l'équipage n'était pas au complet qu'elles avaient obtenu de ne pas être logées à fond de cale. Cette partie du navire avait été réservée à une cargaison de poudre et de boulets que l'on envoyait au gouverneur de la Louisiane. Cargaison dangereuse s'il en fut, et qu'on avait par prudence isolée dans la cale à l'avant du navire. Un matelot devait toujours y faire faction, relevé de 2 en 2 heures. Nous avons dit que le brick Le Glorieux tenait mal la mer. Les passagères ne furent pas longtemps à s'apercevoir qu'il roulait et tanguait effroyablement. Dès le départ, toutes furent violemment éprouvées et quelques-unes d'entre elles assez sérieusement atteintes pour qu'on dût leur porter secours. La brise ayant fraîchi, le vieux bâtiment se pencha sur tribord et les voiles s'étant gonflées, il se mit à filer avec rapidité. Le lendemain matin, on signalait le cap La Hague que 2 heures plus tard on parvenait à doubler. Et le Glorieux entra à pleine voile dans l'océan Atlantique. Sur le pont, les matelots réunis envoyaient un dernier adieu à la terre de France qui disparaissait s'estompant à peine dans la brume de l'horizon. Bientôt, les côtes ne parurent plus que comme une ligne plus sombre sur un fond gris. Puis, plus rien. Rien que le ciel et l'eau s'étendant à perte de vue. Et lorsque, du haut de la vergue de perroquets du grand mât, la vigie eut annoncé qu'on n'apercevait plus la terre, une immense clameur s'éleva de l'endroit où s'était assemblé l'équipage. Et le quartier-maître psalmodia à haute voix, dans son patois breton, l'invocation à Sainte-Anne d'Auray. Après cette prière que pas un marin quittant la France n'eût manqué d'adresser à la Bienheureuse, chacun demeura silencieux et comme absorbé par des souvenirs de la patrie qui était déjà si loin. C'est un moment solennel dans les navigations au long cours que celui où, perdant la terre de vue, l'on se retrouve dans l'immensité. L'âme la plus endurcie se sent émue au spectacle grandiose qui s'offre au regard. L'esprit le plus sceptique formule des paroles pieuses qui viennent aux lèvres comme d'elles-mêmes. Marianne avait éprouvé ce serrement de cœur que ressentent tous ceux qui abandonnent leur pays pour la première fois. Elle était déjà loin de cette France où elle savait ne plus devoir retourner jamais. Et au fur et à mesure que l'immensité de la mer lui apparaissait, son âme s'élevait comme pour se purifier au spectacle grandiose de la nature. Elle sentait se développer en elle les sentiments qu'elle avait ressentis en germe dans son enfance et qui s'étaient pervertis au cynisme de Jacques. Il renaissait maintenant en elle, se dégageant des erreurs semées dans son esprit et qui l'avaient si rapidement envahi, comme les ronces folles envahissent les terres qu'on laisse incultes. On sait que grâce à la recommandation du chevalier de Vaudrey, Marianne avait bénéficié de certaines faveurs, dont la plus grande était assurément que l'officier commandant le navire eût bien voulu lui épargner la vie commune avec les filles perverties qui composaient le convoi d'exilés. Elle obtint en outre de pouvoir, le soir venu, se promener sur le pont pendant cette longue traversée. La sollicitude dont cette captive avait été l'objet de la part du neveu du lieutenant de police avait bien un peu intrigué le marin. Mais, ainsi que nous l'avons dit, le lieutenant Douvel n'était pas communicatif. Il ne fit donc pas tout d'abord grande attention à la captive qui profitait largement de la permission qu'on lui avait accordée de se promener sur le pont, s'isolant ainsi du reste des détenus. Cependant, l'attitude si étrange de cette prisonnière finit par attirer les regards du silencieux officier. Il trouvait un air si réservé et un visage si mélancolique et si résigné à la fois à cette fille qu'on exilait sans doute en expiation de quelque crime, soit d'un délit sérieux, qu'il finit par s'intéresser lui aussi à la passagère. Il se demanda ce que pouvait être cette femme qu'on lui avait si chaudement recommandée et à laquelle cependant on imposait le sévère châtiment de l'exil. Peu à peu, le lieutenant s'était senti attiré vers Marianne. Un jour même, il avait voulu aborder la prisonnière, pendant une de ses promenades qu'elle effectuait chaque soir sur le gaillard d'avant. Mais, au moment de se diriger vers elle, il avait été arrêté au passage par l'arrivée de l'un des aspirants qui venait prendre le quart, et Marianne s'était vivement éloignée. À quelques jours de là, se trouvant sur le passage de Marianne, il s'arrêta court devant celle-ci en prononçant ces mots. « Décidément, vous fuyez la société de tous ceux qui sont à bord. De tous, sans exception. » Marianne balbutia une excuse banale. Le lieutenant reprit. « Oui, oui, vous cherchez à vous isoler. C'est à peine si de temps en temps vous vous informez de ce qui se passe dans l'entrepont où sont reléguées vos compagnes d'infortune, et vous ne vous joignez à elle qu'à l'heure où, tous les 3 jours, vous assistez à l'appel nominal. Et riant. Singulière formalité, n'est-ce pas? Et qui prouve bien ce que valent certaines traditions de discipline. Comme si quelqu'un pouvait s'échapper lorsqu'on se trouve entre le ciel et l'eau, comme nous sommes en ce moment. La détenue, remise d'une légère émotion, éprouva le besoin de se justifier du petit reproche d'indifférence envers ses compagnes qu'on venait de lui adresser. « Je porte, croyez-le, monsieur le capitaine, tout l'intérêt possible à celle dont je vais partager le sort à la Louisiane. Et j'ignore, ajouta-t-elle, pourquoi l'on m'a séparée d'elle ?» Et regardant son interlocuteur. « C'est assurément vous, monsieur le capitaine, qui en avez donné l'ordre. »« Assurément. »« Pourquoi ?» demanda timidement la jeune femme. « Pourquoi suis-je privilégiée ? Je suis une condamnée comme les autres. Pour quel motif n'ai-je pas trouvé ma place dans l'entrepont, ainsi qu'elles toutes ?»« Parce que j'avais donné des ordres à ce sujet. »« Je vous suis reconnaissante, monsieur, de cette faveur, mais s'il m'était permis de la refuser, je vous serais gré de m'autoriser à vivre en commun avec les autres exilés. » Non, vraiment. Le motif de ce refus, pouvez-vous me le dire, monsieur le capitaine? L'officier, ayant hésité un peu, Marianne insista. Si je demande cela, c'est que j'ai déjà remarqué chez les prisonnières une disposition à me prendre en méfiance, et je désire retourner auprès d'elles. Et s'animant. Du reste, monsieur le capitaine, la plupart de ces pauvres femmes me connaissent depuis quelque temps déjà. Ah? Vous vous êtes déjà rencontré avec elles? « Hélas, monsieur, nous étions ensemble une 20aine à la Salpêtrière. »« À la Salpêtrière ? Mais je croyais, j'avais entendu dire qu'on n'y recevait que des malheureuses atteintes d'aliénation mentale. »« Je sais effectivement qu'une partie de ce vaste établissement est consacrée aux folles, mais il y a une autre partie. »« Celle où vous étiez, sans doute. »« Oui, celle où j'étais. » »« Et l'on y reçoit indistinctement des coupables de toutes sortes. » Des voleuses et des prostituées. C'est là que les agents du lieutenant de police viennent prendre les malheureuses qui ont été condamnées à ne jamais revoir ni leur patrie, ni les êtres qui leur sont chers. Marianne avait prononcé ces mots d'une voix profondément émue. Le lieutenant Douvel n'avait pu retenir un léger mouvement lorsqu'elle avait parlé des voleuses et des prostituées qu'on enfermait à la Salpêtrière. Il semblait se demander s'il était bien possible que cette jeune fille appartînt à l'une de ces deux catégories. Au bout de quelques instants de silence, et dans l'intention de couper court à cette conversation, « Puis-je espérer, dit Marianne, que vous voudrez bien, monsieur le commandant, m'autoriser à retourner auprès des autres déportés ?»«
Décidément, répondit monsieur Douvel, vous ne voulez pas profiter de la faveur toute particulière dont vous êtes l'objet. »«
Oh oh ! » fit le médecin du bord qui arrivait en ce moment. « Ceci n'est pas chose ordinaire, mon enfant. » Ce médecin-major était un vieux praticien qui avait fait partie de la première expédition dirigée sur la Louisiane lors de la prise de possession de cette colonie par la France. Il avait vu passer devant ses yeux bien des exilés et les traitait toujours avec bonté, tout en affectant un air très sévère. En apprenant que Marianne demandait à être traitée sans plus de ménagement que les autres, il ne put se dispenser d'interroger la jeune femme.
« Quelle mouche vous pique, ma petite ? Qui vous dicte un pareil refus ?»
Ah, je vois, vous avez sans doute à bord une camarade que vous affectionnez et dont on vous aura séparée.
Vous vous trompez, monsieur, répliqua la détenue. Je n'ai pas de camarade, ou du moins, elles me le sont toutes au même titre.
Alors, c'est que vous êtes malade, ricana le docteur. Il faut soigner cela.
Je me porte à merveille, fit Marianne.
Tant mieux pour vous, dit le major. Il n'en est pas de même pour l'une de nos respectables passagères. « Celle-là est souffrante, très souffrante, en proie à la fièvre, au délire. »«
Et pour la soigner, dit d'une voix émue Marianne, cette pauvre femme ne peut avoir... »«
Que des matelots pour garde-malade, c'est ce que vous voulez dire ?»
Marianne fit des yeux un signe affirmatif. « Permettez-moi, monsieur le commandant, dit-elle, de donner des soins à cette infortunée. »«
Diable, dit le docteur, songez-y, ma fille !» La fièvre dont la malade est atteinte pourrait bien, d'un instant à l'autre, prendre un caractère des plus graves. C'est peut-être une fièvre typhoïde et contagieuse.
« Qu'importe, dit Marianne d'une voix calme.
« Mais si vous alliez être atteinte, dit vivement le commandant, ce serait...
l'expiation.
répondit Marianne, les yeux levés vers le ciel. Les deux hommes se regardèrent en silence.
« J'ai votre consentement, monsieur le capitaine ?» dit alors Marianne avec douceur.
« Qu'il soit fait ainsi que vous le désirez, » répondit monsieur Douvel. Puis, au moment de se retirer, s'adressant au commandant.
« M'autorisez-vous également, » dit Marianne, « à prendre à l'entrepont la place qui occupait la malade parmi mes anciennes compagnes ?»«
Soit, puisque vous insistez, » déclara le lieutenant. « Seulement, » ajouta-t-il, « je vous donne la permission, et au besoin, j'insiste, pour que chaque jour vous veniez passer quelques heures sur le pont comme autrefois. »
« C'est une faveur dont je ne suis pas plus digne que les autres. »«
N'allez-vous pas demander la même faveur pour toutes ces coquines ?» interrompit le médecin. « Ce serait un joli spectacle. Et votre navire, mon cher Douvel, ressemblerait bientôt à une succursale de la Salpêtrière. Et alors, mon ami, gare à la discipline de votre équipage, » ajouta-t-il en riant. « Avant 3 jours, vous seriez forcé d'envoyer tous ces gaillards-là au fer et à fond de cale, et de faire la manœuvre par toutes ces coquines. » J'en ai connu d'ailleurs qui vous hissaient une voile et prenaient des ris comme de véritables loups de mer.
Enfin, reprit Charles Douvel, j'accorde les 2 choses demandées, et je vais donner des ordres dans ce sens.
Puis au moment où Marianne s'inclinait pour remercier, son regard croisa celui du capitaine, comme si leurs yeux se fussent cherchés. Quelques minutes plus tard, le lieutenant disait à son vieil ami le médecin. Ne trouvez-vous pas, docteur, qu'il y a chez cette condamnée, chez cette fille perdue, enfin, un cœur, une âme, une élévation de sentiments.
Là, là, mon cher enthousiaste, répondit le docteur. Dites tout de suite que c'est un ange de sagesse, de vertu, et que le juge qui l'a condamné est un misérable assassin. J'ai connu de ces aimables roués qui vous eussent ensorcelé à première vue, mon innocent ami, et vous n'y auriez vu que du feu.
Charles Douvel essaya de rire à cette boutade, mais une légère rougeur lui monta aux joues, comme pour protester contre cette hilarité forcée. Involontairement, il se prenait à penser à cette femme qui manifestait un besoin si impérieux de partager le sort rigoureusement imposé aux autres détenus et de prodiguer même au péril de sa vie des soins à celle qui souffrait.